Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Graphite après Vibrasfest tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, je m'appelle Jean-Noël, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission où nous allons parcourir l'actualité scientifique, tous les domaines scientifiques bien évidemment. Alors aujourd'hui on va faire une petite spéciale Science et Avenir parce qu'il y a plein de petites brèves dans Science et Avenir qui sont assez intéressantes et je pense que ça va occuper une grande partie de cette émission. Donc voilà, plein de sujets qui vont être abordés de façon assez courte et assez vulgarisée, donc normalement accessible pour vous tous. Vous nous écoutez sur le 94.9 hein, pour ceux qui nous écoutent bien sûr sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet en direct ou en différé parce que vous avez récupéré les podcasts bien sûr sur ce site internet ou alors parce que vous êtes aussi en train d'écouter la rediffusion de cette émission tous les mardis à 10h. Aujourd'hui nous sommes le 3 décembre. La sonde spatiale japonaise Hayabusa 2 qui avait été lancée en 2014, elle largue sur Terre une capsule avec des échantillons d'un astéroïde. C'était le 3 décembre 2020. Naissance le 3 décembre 1901 de Werner Heisenberg. Et c'est un physicien allemand qui est l'un des fondateurs de la mécanique quantique. Il est lauréat du prix Nobel de physique en 1932 pour, je cite, la création de la mécanique quantique dont l'application a mené entre autres à la découverte des variétés allotropiques de l'hydrogène. Werner Heisenberg qui est donc un physicien allemand. Décès le 3 décembre 1624, pardon, il y a très longtemps, nous sommes au XVIIe siècle, de Gaspard Bauhin. C'est un naturaliste suisse ayant été parmi les premiers à tenter de réaliser une classification naturelle des plantes. Et en fait, Bauhin marque un tournant dans l'histoire de la botanique. Il ne se contente pas de reprendre et de commenter les anciens textes. C'est basé sur un véritable travail d'observation et il a constitué un herbier qui contenait plus de 4000 échantillons. Gaspard Bauhin propose un embryon de classification qui était imparfait à l'époque, mais qui rompt avec le système alphabétique. C'est totalement innovant. Nous sommes donc dans les années 1600 à peu près. Et voilà, il a vraiment mis en place une classification naturelle des plantes. C'est l'un des tout premiers. Et du coup, ça a ensuite perduré. En tout cas, ce qu'il a mis en place a eu un véritable impact par la suite. Ça, c'est l'éphéméride. Alors, des petites brèves comme ça de Science et Avenir. Alors, les sujets vont être totalement variés. Et c'est ça qui va être intéressant. Selon une enquête menée par l'Université de New York auprès de 327 scientifiques ayant récemment signé des travaux en intelligence artificielle, eh bien un tiers d'entre eux convient que des décisions prises par des intelligences artificielles pourraient provoquer des catastrophes allant jusqu'à une guerre nucléaire. C'est assez étonnant hein, quand même que un bon tiers d'entre eux se dit que ça peut être possible. Il y a les deux autres tiers, hein, 64%, jugent de tels scénarios improbables. Ok, mais enfin bon, quand même ça, je sais pas, ça incite à réfléchir en fait. On a tellement vu de films de science-fiction qu'au bout d'un moment, on se dit que ça serait plus de la science-fiction. On pense à Terminator en fait quelque part. Il y a ça en fait comme inconscient qui existe, mais voilà. En robotique. Il a mis 24 secondes pour courir un 100 mètres sur piste sans chuter. C'est la performance de ce robot bipède autonome développé à l'université de l'Oregon aux États-Unis. Et cette performance a été officiellement validée par le livre Guinness des records début octobre. Ce robot s'appelle Cassie et il est inspiré de l'autruche. Il n'utilise aucun capteur, mais il se base sur l'apprentissage par renforcement. Il apprend par un système d'essai-erreur, hein, c'est-à-dire qu'il va se perfectionner pour pouvoir contrôler son équilibre et ses mouvements. Il avait déjà réussi à marcher sur 5 km ou à grimper. Et donc là, il a parcouru un 100 mètres en 24 secondes. Il y a une vidéo qui existe que vous pouvez voir, c'est assez fascinant. Et il s'appelle Cassie. Et effectivement, alors c'est un robot, on voit que les jambes, quelque part, c'est pas un robot humanoïde comme on pourrait l'imaginer. Mais en tout cas, voilà, c'est assez étonnant. Voilà, plein de petites brèves. C'est ce que je vous propose dans cette émission de Biotine aujourd'hui. Des brèves scientifiques et un peu de musique, bien sûr. Stella, c'était Waterlilies sur l'antenne de Graphite. Allez, on continue avec les petites brèves de Science et Avenir, avec ces échantillons d'un nouveau minéral lunaire qui a été découvert, incolore, transparent. Il est composé uniquement d'atomes de fer, d'yttrium et de phosphore. C'est donc un nouveau minéral lunaire qui a été baptisé Changesit, en référence à la déesse de la lune dans la mythologie chinoise. Ce minerai a été identifié par des chercheurs de l'Institut de recherche sur la géologie de l'uranium de Pékin parmi un kilo d'échantillons de roches lunaires qui avaient été rapportés en 2020 par la sonde chinoise Change5. La découverte vient d'être confirmée par l'Association internationale de minéralogie. C'est seulement le sixième minéral connu à exister exclusivement sur la Lune, les autres ayant été dénichés par des missions américaines et soviétiques il y a plusieurs décennies. Et donc, prochaine étape pour la Chine, c'est la mission Change 6 qui partirait collecter des échantillons sur la face cachée pour la première fois d'ici à 2024. Donc, on suivra bien sûr cela. Alors, il y a une photo dans Science et Découverte qui vous montre ce minerai. En fait, bon, oui, c'est une espèce de minéral gris. Alors, on nous dit qu'il est transparent, la photo le rend moins bien, mais en tout cas, c'est assez intéressant parce qu'il n'existe que sur la Lune. En physique, le principe d'équivalence d'Einstein qui énonçait que les corps chutent dans les vides de la même façon, quelle que soit leur masse ou leur composition, eh bien ce principe d'équivalence a été vérifié par le satellite microscope du CNES. Ce laboratoire spatial offre une estimation 10 fois plus précise que celle de 2017. Désormais, toute théorie ambitionnant de modifier la relativité générale comme certaines variantes de la théorie des codes des corps devra respecter ce principe. Et donc, du coup, on a encore une confirmation que Einstein avait raison pour la gravitation. Et donc, du coup, voilà, c'est assez intéressant également d'avoir maintenant, comment dire, une preuve réelle de ces prédictions. En numérique, une intelligence artificielle est parvenue à prédire avec 80% d'efficacité les mouvements des joueurs lors d'un match de volleyball. Les algorithmes de vision par ordinateur informés des stratégies d'équipe et des règles du jeu, ils interprètent les informations telles que la couleur du maillot, la position, la posture des corps des joueurs. Et tout ça, c'est d'anticiper le déroulement de la partie. Et donc, cette intelligence artificielle, elle a prédit les mouvements dans les sports collectifs. C'est assez intéressant, ça nous vient de l'université Cornell aux États-Unis. Une mission, cette fois européenne, qui s'appelle EROS, avec deux S, E-R-O-2-S. Le lancement est prévu pour 2027. Cette mission a été sélectionnée par la Commission européenne pour démontrer nos capacités orbitales de réparation, de ravitaillement, de remise à niveau logiciel et surtout de désorbitation grâce à un bras biologique. C'est un genre de réparateur éboueur autonome pour les satellites quelque part. Ce qui est assez intéressant parce que 40% des 5000 satellites en orbite sont fonctionnels. Les autres, ce sont des débris spatiaux qu'il est urgent de balayer. Et donc cette mission prévue pour 2026-2027 a été sélectionnée justement pour essayer de nettoyer un petit peu l'espace. Il était temps, bien évidemment. Il y a un balcon dans la stratosphère, ça va nous permettre d'admirer la courbure de la Terre depuis un balcon qui est posté quand même à 35 km d'altitude, faut pas avoir le vertige. C'est une expérience qui est promise par une entreprise toulousaine qui s'appelle Stratoflight. C'est à bord d'une capsule de 8 mètres de long pour 6 personnes. Il y a deux pilotes parmi ces 6 personnes. L'engin monte jusqu'à la stratosphère à l'aide d'un ballon gonflé à l'hydrogène. Le retour au sol se fait sous une aile pilotée. Les premiers vols sont prévus pour 2025 et donc il sera possible de se mettre sur le balcon et de pouvoir admirer la courbure de la Terre. C'est assez fascinant et c'est pour 2025, ça va être assez proche, un avenir très proche, réservez vos billets bien évidemment. Et puis le nombre de fourmis sur Terre, tiens, ça on peut se demander, elles sont petites, elles sont nombreuses. Il y a une équipe de l'université de Hong Kong qui a compilé presque 500 études pour estimer la population totale de fourmis présentes à la surface de la Terre. Eh bien l'estimation, elle est quand même assez extraordinaire. On estime à 20 millions de milliards le nombre de fourmis sur Terre. Je ne sais même pas combien ça fait de zéro, ça, 20 millions de milliards de fourmis. Ça veut dire que pour chaque être humain, il y a 2 500 000 fourmis. Donc déjà, on est quand même assez nombreux sur Terre. Vous imaginez 2 500 000 de plus. Enfin, fois plus, pardon. 2 500 000 fois plus, c'est quand même assez impressionnant. Leur biomasse totale est de 12 millions de tonnes. C'est équivalent à 20% de celle de l'humanité. C'est extraordinaire, ce chiffre. Alors, c'est une estimation, mais en tout cas, c'est une estimation qui est quand même assez... Je sais pas, assez impressionnante, je trouve. Voilà, c'était des petites brèves comme ça. C'est toujours sympa. Allez, on continue à écouter un peu de musique aussi, parce que c'est sympa.
Éternel été, beauté à jamais, ombre du trépas, cher bourgeon de mai, l'effet du hasard, ne le retiendra, parfois trop ardent. À jamais, ombre du trépas, cher bourgeon de mai, l'effet du hasard.
Assez ambitieux, je trouve, de vous passer Éternel été d'Ezekiel Palès en plein mois de décembre, mais pourquoi pas, il n'y a plus de saison maintenant, donc du coup, c'est pas grave. Vous écoutez Graphite sur l'antenne, vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, c'est mieux dans ce sens-là, 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, en direct ou alors en différé avec la rediffusion de l'émission le mardi à 10h. Et quand vous le souhaitez, sur le site internet de Graphite, hein, vous avez la possibilité de récupérer tous les podcasts et de toutes les émissions et d'écouter Graphite quand vous le souhaitez. Et c'est tant mieux. On continue à feuilleter un petit peu toutes ces petites brèves de sciences et découvertes. Je trouve que c'est sympa comme ça. C'est des articles très courts et puis ça nous permet d'aborder plein de sujets. Par exemple, en botanique, après 3 ans de planification, eh bien, il y a 5 expéditions et une randonnée de 2 semaines dans la jungle. Au bout de tout ça, je vais y arriver, hein. Donc 5 expéditions et une randonnée de 2 semaines, hein, dans la jungle, eh bien, une équipe de l'Université fédérale d'Amapá au Brésil a atteint le plus grand arbre jamais découvert dans la forêt amazonienne. En fait, il avait été repéré par satellite en 2019 dans la réserve naturelle de la rivière Iratapuru. C'est dans le nord du Brésil. Eh bien, ce spécimen, c'est un... Alors, je ne sais pas précisément ce que c'est, un Dinidia excelsa. En tout cas, il fait 88 mètres de haut, ah ouais quand même, et il fait presque 10 mètres de diamètre. Tu m'étonnes, il doit être grand et impressionnant. En tout cas, ils ont réussi à l'atteindre, ce plus grand arbre d'Amazonie. En éthologie, donc c'est un petit coucou que l'on fait à Carole. L'éthologie, c'est la science du comportement des animaux, enfin... même des hommes également. Et l'éthologie, un petit article qui explique qu'en suivant l'activité cérébrale de chiens grâce à l'IRM fonctionnel, pendant qu'ils regardaient des vidéos, eh bien, il y a des chercheurs qui ont pour la première fois décodé des stimuli visuels dans le cerveau des chiens. Selon les résultats, les chiens seraient plus sensibles aux actions dans leur environnement plutôt qu'à l'auteur ou à l'objet de l'action. C'est une recherche de l'université d'Emory aux États-Unis qui revient ça, c'est-à-dire que cet IRM a permis de décoder dans la tête des chiens pendant qu'ils étaient en train de regarder des vidéos. C'est assez intéressant. Alors on ne sait pas ce qu'ils regardaient comme vidéo, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'on leur a mis sous les yeux. Mais voilà, c'est assez intéressant tout ce que l'on peut faire maintenant sur ces pauvres bêtes. Autre chose, aucune transition, ils ont été placés dans des structures 3D qui reproduisaient l'appareil génital féminin. Eh bien, on a regardé des spermatozoïdes de taureaux qui avaient tendance à se rassembler par deux ou par quatre cellules. C'est une technique de nage groupée qui les rend bien plus efficaces pour progresser au travers de l'épais mucus vaginal. La découverte pourrait éclairer d'un nouveau jour certains cas d'infertilité selon les chercheurs. Donc voilà, c'est une espèce de nage collectif, et donc ces spermatozoïdes paraissent plus efficaces quand ils nagent de façon groupée. Donc ça, on a vu ça chez le taureau, et donc du coup on fait des analogies, et ça permettrait peut-être de trouver des solutions thérapeutiques pour l'infertilité humaine, bien évidemment. En épidémiologie, pourtant c'est un terme qu'on a quand même écouté pendant je ne sais pas combien de temps, et on en reparle, à l'horizon 2050, il y a environ 10 000 décès qui pourraient être évités en France grâce à la hausse des transports actifs comme la marche ou le vélo. C'est-à-dire qu'il y aurait un vrai gain sanitaire grâce à la marche ou grâce au vélo. Et tout ça, en induisant un certain niveau d'activité physique, eh bien, ces déplacements permettraient d'éviter un grand nombre de maladies chroniques, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers. Et donc, selon les calculs de ces chercheurs du Conservatoire national des arts et métiers en France, eh bien, la transition pourrait même sauver 3000 vies dès 2025. Donc, ça serait assez intéressant, bien évidemment, de réduire ce risque de maladie chronique. En neurologie, eh bien, on a comparé les données médicales de plus de 400 anciens rugbymen écossais professionnels et on les a comparés avec un groupe témoin sur 3 décennies. Eh bien, il y a des scientifiques qui ont mesuré que le groupe de rugbymen était presque 12% à souffrir d'une maladie neurodégénérative contre 5% en population générale, et ce quel que soit le poste qui avait été occupé par ces rugbyman, arrière, demi-mêlée, deuxième ligne, etc. Et pour la maladie de Parkinson, le risque est même triplé chez les joueurs. C'est une étude, on en avait déjà évoqué quelque chose d'assez similaire il y a quelques années déjà, et donc ça revient par cette annonce de l'université de Glasgow en Écosse qui montre que le rugby double risque de maladies neurodégénératives. Tout ça notamment à cause des chocs et de la violence un petit peu de ce sport qui implique donc justement apparemment des maladies neurodégénératives par la suite. C'est assez inquiétant bien évidemment. En physiologie, les chiens peuvent reconnaître l'odeur du stress humain. C'est ce qu'indiquent de nouvelles expériences qui montrent que la sueur et l'haleine changent de composition quand nous sommes soumis à un stress, même léger. Et donc les chiens sentent cette odeur humaine qui est spécifique. Ils ne sont pas eux-mêmes affectés. Voilà pourquoi il ne faut jamais paniquer face à un chien. Et voilà pourquoi aussi celui-ci peut défendre une personne qui se sent en danger. C'est une étude qui nous vient de l'université de Belfast au Royaume-Uni. Et donc l'odeur du stress humain serait détectée par les chiens, ce qui pourrait expliquer certaines réactions, bien sûr. Et enfin, en biochimie, il y a ces éléments clés, bien sûr, dans une enquête criminelle. Ce sont les empreintes digitales qui ont un défaut. il est très difficile d'estimer de quand elle date, eh bien cette limitation pourrait être bouleversée par l'analyse de molécules présentes dans la trace justement de ces empreintes digitales. C'est une étude de l'université de l'Iowa, je vais y arriver aux États-Unis, excusez-moi. Cette dégradation au fil du temps de certains époxydes permettrait justement de pouvoir dater une empreinte digitale déposée par un suspect. Et donc au niveau judiciaire, ça peut être intéressant parce que une empreinte digitale montre que vous étiez passé par là, mais on ne sait pas quand. Si on arrive à pouvoir dater, alors on ne connaît pas encore précisément la finesse de cette datation, mais en tout cas, ça permettrait peut-être d'avoir des précisions, des confirmations également pour certains présumés innocents, on va dire, bien sûr. Mais on pourra donc dater les empreintes digitales sur les scènes de crime. Voilà, c'est ça des petites... Je trouve que c'est intéressant, ces petites pastilles de vulgarisation scientifique offertes par Science et Avenir. On écoute Diaz Off sur l'antenne de Graphite.
Déguisé en HLM, le temps d'un poème. Les mots sont toujours les mêmes. Une reine solitaire, elle habite au quatrième. Le temps d'un poème. I'm looking for heaven. Silence. Quand les oiseaux nous écoutent. Silence. Les miroirs nous regardent. À la cour du roi suprême, les voyous sont des voyelles. Et la mort un requiem. Le temps. I'm looking for heaven. Silence. Quand les oiseaux nous écoutent. Silence. Les miroirs nous regardent. S'est glissé dans le système. Le temps d'un poème. I'm looking for heaven. Comme une étoile tombée de ma poche. C'est la fin de ton rêve. Le jour se
Looking for Heaven, c'était Diaz Off sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Les deux dernières petites brèves de Science et Avenir. Les plus anciens animaux de France étaient bretons, c'est ce que nous révèle cette étude de l'université de Rennes. Il y a environ 530 millions d'années, les fonds marins bretons étaient peuplés d'animaux ressemblant correspond à des petits vers marins. C'est ce que révèle le réexamen de fossiles bretons connus depuis le 19e siècle, sur lesquels figurent des pistes d'un ou deux millimètres de large qui sont tracées donc par les plus anciens organismes connus ayant vécu sur le sol français. À ceci près que la Bretagne était alors encore immergée et située à la même position géographique que l'Australie actuelle, bien évidemment. Nous sommes à 530 millions d'années, mais bon, ok. Ils étaient là et ils étaient les premiers et ils étaient sur ce qu'aujourd'hui est la Bretagne au niveau des fonds marins bretons, donc ces plus anciens animaux de France. Enfin, en archéologie, eh bien, on a réussi à partir du scanner de la tête momifiée d'Henri IV de reconstituer son larynx en 3D et donc on espère restituer sa voix d'ici la fin de l'année, la voix d'Henri IV. C'est assez fascinant. Les structures anatomiques de la parole ont en effet été très bien conservé, le larynx ainsi que les fosses nasales, le pharynx et les cordes vocales étant intactes, eh bien cette étude qui nous émane du musée du Quai Branly Jacques Chirac en France, à Paris bien sûr, nous promet peut-être de faire parler dans un futur très proche le roi Henri IV. Je trouve ça fascinant, c'est-à-dire qu'on a pu reconstituer en 3D sa tête en fait quelque part, et du coup on pourrait essayer d'estimer de reproduire sa voix. Je trouve ça assez fascinant, on suivra ça bien sûr, parce que si c'est prévu d'ici la fin de l'année, eh bien j'essaierai d'être attentif et que l'on puisse à la rigueur découvrir la voix d'Henri IV, la voix d'un roi de France. On n'a pas connu ça en fait, c'est assez fascinant. Voilà, c'était les petites brèves de Science et Avenir. Je vous proposais dans cette émission, on reprend un rythme un peu plus classique avec quand même pas mal d'articles qui reviennent notamment sur l'épidémie de Covid-19, où on sait ce Covid-19 qui a privé d'odorat des milliers de personnes. Alors, heureusement, dans la plupart des cas, de façon provisoire, mais dans environ 10% des cas, eh bien, ça persiste. C'est ce qu'on appelle l'anosmie. Ça transforme le quotidien en véritable cauchemar. Alors, si des chercheurs misent sur les cellules souches pour restaurer les fonctions olfactives perdues, eh bien, il y a des spécialistes de la physiologie et de la sphère ORL au sens large. Il travaille à l'université de Virginie aux États-Unis. Il s'agit de Richard Costanzo et Daniel Coelho. Eh bien, ils ont mis au point une espèce de prothèse olfactive destinée aux personnes devenues anosmiques suite à une blessure au cerveau ou suite à la Covid-19. C'est ce que rapporte la revue Spectrum. Le prototype de nez bionique, parce que c'est un petit peu ça qu'on a mis en place, eh bien, ce prototype ressemble plutôt à une paire de lunettes. Mais évidemment, parce qu'on a besoin d'un nez pour poser les lunettes, je sais pas. J'arrive pas à comprendre, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a un détecteur qui est caché dans la monture qui analyse les odeurs et qui transmet l'information au cerveau par l'intermédiaire d'électrodes qu'on a appliquées sur le crâne. C'est un peu, ce qui existe quand ça capte les sons et qu'on les transmet au cerveau pour les personnes qui sont malentendantes. C'est un petit peu le même principe. Donc ça, on a fait à peu près le même dispositif, mais cette fois pour l'odorat. Alors, le projet est en cours depuis un certain temps, c'est-à-dire que c'est un projet qui est en cours depuis 2011. Il y a un brevet qui a été déposé en 2016, mais la pandémie de Covid-19 lui a donné un second souffle. Toutefois, le chemin est encore long pour que ce fameux nez bionique soit abouti. Le système olfactif est complexe. On estime qu'il existe plus de 300 gènes qui vont coder pour des récepteurs olfactifs. Et la muqueuse olfactive est tapissée de plusieurs millions de neurones qui transmettent les informations au cerveau. Et donc, en l'état, c'est quand même assez difficile de reproduire quelque chose d'assez complexe sur un détecteur qui peut être intégré donc dans une monture de lunettes. Tout ça, ça va être très difficile et pour l'instant, c'est impossible. Et donc, le challenge réside aussi bien dans l'intégration des récepteurs olfactifs dans le détecteur que dans la stimulation également du bulbe olfactif qui est, lui, dans le cerveau. Il y a des expériences qui ont été faites sur des rats il y a 4 ans. Ça a montré qu'une stimulation électrique envoyée par un implant positionné à proximité du bulbe olfactif, eh bien, ça activait bien les neurones de cette région et que l'information voyageait dans d'autres parties du cerveau. Donc, c'était pas mal. Un scientifique d'Harvard avait réussi à faire sentir des odeurs d'oignons ou des odeurs fruitées juste en stimulant électriquement une structure anatomique située en haut de la cavité nasale qui supporte justement ces nerfs olfactifs. Les personnes testées percevaient parfaitement les odeurs et ces résultats étaient reproductibles notamment chez les personnes qui avaient perdu l'odorat. Mais il faudra encore quand même plusieurs années de recherche, nous dit-on, pour que les anosmiques puissent retrouver leur odorat grâce à ce nez bionique. En attendant cette avancée technologique, eh bien, il y a des rééducations du nez aux odeurs qui permettent aux anosmiques de retrouver partiellement ce sens qui leur manque tant. Mais voilà, un nez bionique qui pourrait aider les personnes qui ont perdu l'odorat à pouvoir le retrouver, bien évidemment. C'est là aussi quelque chose d'assez intéressant. Allez, on continue à écouter un peu de musique et on continue à feuilleter l'actualité scientifique. Summer, c'était Arthur Satan sur l'antenne de Graphite. Enfin, je crois que c'est Arthur Satan ou Satan, peut-être, je n'en sais rien. Il faudrait qu'on nous donne, en fait, à un moment, les prononciations des noms des groupes. Alors, on va dire Arthur Satan, parce qu'il y a un accent sur le A. Donc, ça va être plutôt ça, je pense. C'est Graphite que vous écoutez, l'émission Biotine, tous les samedis, entre 12h et 13h, et la rediffusion tous les mardis matin à 10h. On parle de l'actualité scientifique. Alors, on va parler un petit peu des prochaines pandémies, hein, parce que si on peut être tenu informé un peu plus tôt, ça nous permettra de nous préparer. Alors, s'il est désormais prouvé que le changement climatique favorise l'arrivée d'épidémies de maladies telles qu'Ebola, la grippe en provenance des régions chaudes ou tropicales, eh bien, le changement climatique favorisera aussi l'apparition de virus issus des régions les plus froides du globe. C'est une étude publiée il y a quelques jours dans la revue Proceedings of the Royal Society. Après avoir étudié la composition du sol et la nature des sédiments du lac Hazen, c'est le plus grand lac du nord de l'Arctique, des scientifiques ont séquencé des fragments d'ADN et d'ARN. Les chercheurs ont ensuite relié de façon informatique les virus trouvés avec le contexte de transmission favorable présent dans la région, les types d'animaux qui pourraient être un vecteur de transmission de ces virus, mais aussi les plantes, mais aussi les champignons. Et donc, ils ont pu déterminer la probabilité que ces virus infectent et se répandent ensuite de façon assez importante, comme le SRAS qui avait été le cas également, et tout ça en sautant d'une population animale à une population humaine. Et donc les scientifiques précisent que les virus qui émergeront des glaces auront plus tendance à infecter de nouveaux hôtes qui sont proches génétiquement de ceux qui sont censés rencontrer dans leur région d'origine. Et donc le réchauffement climatique occasionne un double problème dans ce cas-là, parce qu'il faut bien sûr fondre les glaces qui peuvent alors relâcher les virus, les bactéries qui sont enfouies depuis des millénaires, mais pas seulement, parce que la hausse des températures, elle va également conduire des espèces animales et végétales à migrer, donc à quitter leur habitat d'origine pour se retrouver ailleurs, et ils vont essayer de retrouver des conditions plus favorables à leur survie. En se déplaçant, eh bien, ces êtres vivants vont transporter avec eux les virus, et ils vont les transporter vers d'autres régions. Or, le changement climatique associé à la destruction du milieu naturel de la faune pour le besoin des activités humaines, tout ça conduit les animaux à migrer vers les mêmes zones que les hommes, et les populations humaines et animales se retrouvent donc sur des espaces de plus en plus rapprochés. Voilà comment l'Arctique pourrait devenir le point de départ de nouvelles pandémies. On n'y avait pas pensé, cet article nous permet d'ouvrir un peu les yeux sur cet aspect-là. Alors, les déplacements de la faune en raison du changement climatique, avec le risque épidémique que cela comporte, sont déjà un problème dans les régions tropicales. Le sud-est de l'Asie est une zone particulièrement surveillée par les chercheurs, notamment pour les migrations de chauves-souris vers les régions plus au nord. Après les zones tropicales, l'Arctique donc pourrait devenir un espèce de nouveau hotspot de pandémie, bien sûr. Les lacs glaciaires seraient un réservoir immense de virus, car leurs sédiments sont remplis de matière organique, et la fuite de sédiments contenant des virus peut s'effectuer sur le plus long terme en débordant progressivement avec la fonte des glaces. Et le nord de l'Arctique est actuellement l'une des zones du monde les plus touchées par le changement climatique. Un tiers de la glace qui couvre l'océan Arctique en hiver a disparu en l'espace de 20 ans. Et donc, cet article, je trouve, est assez intéressant, parce que ça nous alerte encore sur des nouveaux risques qu'on n'avait pas encore clairement identifiés. Mais effectivement, s'il y a un bouleversement assez accéléré qui va faire apparaître des virus qui vont pouvoir être transportés par les animaux qui, eux, se déplacent vers nous, on voit tout de suite vers quoi on tend, c'est pas véritablement joyeuse qui nous attend, en fait. Oui, j'aime bien plomber l'ambiance comme ça, un samedi midi, parce qu'il y a un moment, il faut parler de la réalité, mais quelque part, ça permet justement d'avoir une vision totalement objective en alertant sur ces sujets-là. On n'a pas encore nécessairement une échéance, mais en tout cas, on peut essayer d'avoir une anticipation. Peut-être, je n'en sais rien. À voir, évidemment. Autre sujet, et on va aller sur Mars. Et ça, alors, ça a eu lieu il y a quelques temps, et j'ai oublié de l'évoquer. Je l'ai retrouvé tout à l'heure en préparant l'émission. sur Mars, il y a un petit hélicoptère qui a été emporté sur Mars qui s'appelle Ingenuity. On en a déjà parlé. Il avait été emporté par le rover de la NASA et il était parti pour effectuer 5 vols d'essai au-dessus de la surface de Mars. Le premier a eu lieu le 19 avril 2021. C'était un succès retentissant. On en avait parlé dans cette émission. Et puis, ça a été suivi par de nombreux autres parce que jusqu'au 24 septembre dernier, eh bien, Ingenuity s'envolait alors pour la 33e fois. Au départ, c'était 5 vols, il en a fait 33 jusqu'au 24 septembre. Le vol a Ingenuity s'est élevé jusqu'à 10 mètres au-dessus de la surface de Mars. Il a parcouru en à peu près une minute plus de 110 mètres. C'était quand même assez intéressant. Et l'objectif qui était prévu ce 24 septembre, c'était tout simplement de repositionner l'hélicoptère. Et en fait, il y a une caméra de navigation qui est bien sûr positionnée, qui permet de pouvoir faire naviguer cet hélicoptère. Et cette caméra a observé quelque chose qui a surpris les membres de l'équipe, qui analyse les données renvoyées par l'hélicoptère. Il y a un petit bout de quelque chose qui n'a pas été identifié, qui a été qualifié par la NASA de FOD, c'est-à-dire de Foreign Object Debris. Ça veut dire de débris d'objets étrangers, donc un objet dont la présence apparaît d'autant plus étrange aux scientifiques, aux ingénieurs, qu'il n'apparaissait pas sur les images envoyées par Ingenuity lors de son vol précédent. Il y a quelque chose qui s'est accroché à cet hélicoptère, on ne sait pas ce que c'est. Les images montrent que l'objet, d'abord accroché à l'une des jambes de l'hélicoptère, a fini par tomber au sol. Pourtant, les données télémétriques du vol et toutes les analyses après vol n'ont pour l'instant pas permis aux équipes de repérer un quelconque dommage sur Ingenuity. Il y a des investigations qui sont toujours en cours pour essayer de comprendre. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé ce 24 septembre dernier sur Mars, où il y a quelque chose qui a attiré l'attention des équipes. Il y a un objet qui n'a pas été identifié et qui s'est accroché à l'hélicoptère, qui ensuite apparemment est tombé, en tout cas a disparu. Enfin non, il a tombé au sol. On ne sait pas ce que c'est. Et pour l'instant, on cherche. Et ça nous intrigue. Et ça, on veut savoir. Je ne sais pas. Donc, essayez de regarder sur Internet. Alors, les images ne sont pas géniales, mais en tout cas, ça permet peut-être de se faire son propre avis. Je n'en sais rien. C'est peut-être un martien. On ne sait pas. On ne sait pas.
And I
Riverside, c'était Agnès Obel sur l'antenne de Graphite. Dernier petit article qui va être un petit peu plus optimiste. Ces nouvelles vont être plus intéressantes que celles qu'on vient d'évoquer. Il y a des enzymes présentes dans la salive de larves qui peuvent dégrader rapidement l'une des matières plastiques les plus utilisées dans le monde. Ça ouvre une piste vraiment intéressante de lutte contre cette forme de pollution. C'est une étude qui a été publiée il y a quelques semaines dans la revue Nature Communications. Sur les 400 millions de tonnes de matières plastiques produites chaque année, selon les estimations de l'OCDE, il y a un tiers environ qui sont des polyéthylènes. C'est issu de la pétrochimie. C'est simple, c'est pas cher à fabriquer, c'est très utilisé, notamment dans les emballages. Et il est très résistant, le polyéthylène, et il représente environ 40% de la demande des produits en matière plastique en Europe. Mais il lui faut jusqu'à un siècle pour se dégrader dans la nature. Et l'ONU, qui qualifie la pollution au plastique de fléau mondial, a récemment lancé des négociations pour l'élaboration d'un traité international destiné à réduire ce phénomène. Le fait que certaines enzymes puissent attaquer les matières plastiques avait déjà été documenté. Mais sur de longues années, on en avait déjà parlé dans cette émission parce qu'il y a eu des articles scientifiques qui avaient évoqué cela. Or, ce qui est intéressant, et ça vient des travaux de cette équipe de chercheurs espagnols, il y a deux enzymes présentes dans la salive de larves du papillon de nuit qui attaquent le polyéthylène en quelques heures seulement à température ambiante. Federica Bertocchini du Centre d'études biologiques de Madrid, qui est l'auteur principal de cette étude et qui est aussi apicultrice amateur, elle a expliqué avoir eu l'idée de cette recherche en nettoyant des ruches stockées pour l'hiver et dont les rayons de cire avaient été colonisés par ces larves. Et ayant nettoyé les ruches, elle a mis les larves dans un sac en plastique et elle a constaté peu après que celui-ci était plein de trous. Et donc la question était, est-ce que ces larves mangent ou est-ce qu'il y a une espèce de processus chimique? Et donc ils ont vérifié en laboratoire et ils ont découvert que le polyéthylène avait été oxydé, c'est ce qu'elle a expliqué à l'AFP. Il y a de nombreux travaux et des expérimentations complémentaires qui seront nécessaires bien évidemment pour comprendre parfaitement un petit peu ce processus avant d'envisager une application concrète de cette découverte bien évidemment. Il n'empêche que Federica Bertocchini imagine différentes pistes d'utilisation contre la pollution du plastique. Les enzymes pourraient être intégrées à une solution liquide versée sur du plastique en déchetterie par exemple, ou alors être utilisées dans des lieux isolés où la collecte ou le recyclage sont difficiles, voire à terme peut-être dans des foyers individuels pour dégrader leurs propres déchets. C'est vraiment intéressant, c'est une piste assez prometteuse, parce que si on arrive à, grâce à cette larve, dévorer le plastique de nos emballages, mon Dieu, ça va être assez, ça peut donner une solution vraiment intéressante à cette pollution qui est un véritable fléau mondial selon les termes de l'ONU concernant cette pollution en plastique. Voilà, ça nous vient donc d'Espagne. On essaiera de suivre un petit peu plus, bien évidemment, la vie et le travail de ces petites larves. Bienvenue à elles. On les embrasse bien évidemment. Et puis tous ensemble, on va se quitter avec ce titre de Gabriel Ross sur l'antenne de Graphite.
Prohibido dar un paso sin lo que te está pasando. Cada loco con su tema, cada cual a su manera, tratando de evitárselo. Y en ese olvido quita tu mundo trágico. Mira que eso duele un montón. Cuando cuento bien y pego un jalón, y uno va bajando y bajando. Alas en tu brazo, muchacho, alas pa' ver, pa' putar. Pase lo que pase, ya tiempo hace que viene sin quemarse. La torre.
Van a quemarla, ya te lo dije, te van a quemar la torre. dar un paso, ya no eres lo que eras antes. Entra tu naturaleza,
una fiera y también su presa bailando,
sin zafársele. Y en ese olvido ve que está tu instrumento mágico. Mira que él sabe un montón, eso le pasa de tanto ver al dragón, quemando y quemándose.
Alas son tu brazo, muchacho, alas pa' verlo, pa' volar.
Ojos pa' volar.
La Torre, c'était Gabriel Rios sur l'antenne de Graphite. C'est la fin de cette émission Biotine. On se retrouve samedi prochain sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM. Graphite.net, pardon, pour ceux qui nous écoutent sur Internet, en direct ou en différé, parce que vous avez eu l'idée géniale de récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur le site Internet, bien évidemment. Donc on se retrouve samedi prochain. D'ici là, passez un bon week-end. N'oubliez pas le 36-37, bien sûr, pour le Téléthon. Bonne journée à l'écoute de nos programmes sur Graphite. À samedi prochain, 12h pour Biotine. Bonne journée, au revoir.